l'écoute d'un programme en rediffusion sur VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui, Jean-Roger Bignot à ce micro au sommaire de cette édition du vendredi 2 août 2024. Le Kremlin a levé aujourd'hui un coin de voile sur les agents russes libérés. Le chef du Hamas a été enterré au Qatar alors que l'Iran et ses alliés préparent leur riposte. Au Nigeria, au moins 13 personnes ont perdu la vie lors des manifestations contre la vie chère, selon Amnesty International. En Tunisie, les candidats à la présidentielle du 6 octobre et des ONG dénoncent de nombreuses restrictions et des intimidations. La République démocratique du Congo fait face à une augmentation exponentielle du nombre de cas de Mpox, la variole du singe.
Nous comptions jusqu'à 37 cas qui étaient identifiés, répertoriés dans les zones de santé de Goma, Karisimbi et de Nyiragongo.
Jean-Claude Nzé, spécialiste du soutien au programme de l'ONG Chorus, nous fera l'état des lieux dans la partie magazine. Ne manquez pas le journal des Jeux Olympiques de Paris. On commence par le bulletin d'information. Le Kremlin reconnaît que des agents de services de renseignement figurent parmi les Russes qui ont été libérés dans le cadre de l'échange avec l'Occident. Paris appelle Moscou à libérer sans délai les personnes qui sont encore arbitrairement détenues en Russie, selon les termes même du Quai d'Orsay, davantage avec Alexandrine Oulignon.
L'accord a permis la libération de 16 personnes détenues en Russie et au Bélarus en échange de 8 Russes incarcérés aux États-Unis, en Allemagne, en Pologne, en Slovénie et en Norvège, ainsi que les deux enfants d'un couple d'espions. Parmi les Russes qui ont retrouvé la liberté figure Vadim Krasikov, qui purgeait une peine de prison à vie en Allemagne pour l'assassinat d'un Géorgien issu de la minorité tchétchène qui avait combattu contre les forces russes entre 2000 et 2004. Le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov, a reconnu ce vendredi qu'il s'agissait d'un membre du FSB. Pour le chancelier allemand Olaf Scholz, la décision de relâcher Vadim Krasikov a été difficile, mais elle a sauvé des vies. Ce vaste échange a relevé de la prouesse diplomatique, s'est également félicité Joe Biden. Paris a appelé pour sa part Moscou à libérer sans délai les autres personnes qui sont encore arbitrairement détenues en Russie. Le Kremlin a écarté toute avancée immédiate dans les négociations autour du conflit en Ukraine, consécutive à cet échange de prisonniers, en soulignant que ces deux processus obéissaient à des principes complètement différents.
L'ancien président américain Donald Trump a vivement critiqué cet échange de prisonniers conclu entre la Russie et les Occidentaux, le qualifiant de victoire pour Poutine lors d'une interview diffusée ce vendredi. Les Russes ont fait une bonne affaire, a déclaré le candidat républicain au sujet du plus grand accord de libération de prisonniers depuis la fin de la guerre froide. La vice-présidente américaine Kamala Harris va être investie candidate démocrate pour la présidentielle du 5 novembre après avoir obtenu suffisamment de voix de délégués de la Convention démocrate. Lors d'un vote en ligne, a annoncé le président du Comité national démocrate, Kamala Harris a indiqué qu'elle accepterait officiellement l'investiture de son parti la semaine prochaine. Des centaines de fidèles se sont rassemblés ce vendredi dans une grande mosquée de Doha au Qatar pour prier en mémoire du chef du Hamas, Ismaël Haniyeh. Hier, des hommages funéraires similaires avaient eu lieu à Téhéran où il a été tué la veille. Mohamed Oumfa.
Ce vendredi matin, le corps d'Ismaël Haniyeh a été transporté jusqu'à la mosquée de Doha où les fidèles se sont rassemblés portant le drapeau palestinien ou le traditionnel kéfier. Une partie d'entre eux sont restés à l'extérieur pour prier sur les nattes par 44 degrés Celsius avant que le cercueil enveloppé dans le drapeau palestinien ne parte vers le cimetière. À la fin de la cérémonie, des cris de colère sont montés de la foule tandis qu'un groupe d'hommes quittait les lieux en portant en l'air un fidèle amputé d'une jambe et d'un bras. Jeudi, des milliers de personnes en deuil ont assisté aux funérailles officielles d'Ismaël Haniyeh à Téhéran. Le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, qui avait menacé Israël d'un châtiment sévère, a récité la prière des morts. La Turquie observe ce vendredi un jour de deuil national, a annoncé jeudi le président turc Recep Tayyip Erdogan. Le chef du Hamas, qui résidait fréquemment en Turquie avant le 7 octobre, avait été reçu en avril à Istanbul par M. Erdogan, fervent soutien du Hamas, qu'il qualifie de mouvement de libération. Le Pakistan observe aussi un jour de deuil national. Après l'annonce de la mort d'Ismaël Haniyeh, plus d'un millier de partisans du parti islamiste Jamaat-e-Islami s'étaient réunis à Rawalpindi, grande ville populaire aux portes d'Islamabad, pour saluer le martyr Ismaël Haniyeh et conspuer Israël et l'Amérique.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les partis d'opposition tunisiens candidats à la présidence et des groupes de défense des droits de l'homme accusent les autorités d'avoir recours à des restrictions arbitraires et à l'intimidation afin d'assurer la réélection du président Kais Saied dans le cadre du scrutin prévu le 6 octobre. Kais Saied a annoncé le 19 juillet qu'il briguerait un nouveau mandat de 5 ans. Les précisions de John Lindon.
Élu en 2019, Kais Saied a dissous le Parlement en 2021 et a commencé à gouverner par décret, ce que l'opposition a qualifié de coup d'État. Il a déclaré qu'il ne céderait pas le pouvoir à ce qu'il appelle des non-patriotes. À l'approche de la date limite du 6 août pour l'enregistrement, les 11 personnalités de l'opposition qui espèrent se présenter contre Saïd ont publié cette semaine une déclaration commune critiquant les autorités. Les violations ont affecté la plupart des candidats sérieux au point qu'elles semblent indiquer une volonté de les exclure du scrutin, de restreindre la liberté d'expression et de laisser la place à un candidat spécifique, ont-ils déclaré. Aucun des 11 candidats de l'opposition n'a encore obtenu le document certifiant qu'ils n'ont pas de casier judiciaire, une nouvelle condition qui leur permettrait de s'inscrire sur les listes électorales. Le porte-parole de la commission électorale a déclaré que le ministère de l'Intérieur contacterait les candidats pour leur fournir le document nécessaire, sans préciser quand cela se ferait. La commission a également rejeté les accusations de partialité. Dans une déclaration séparée jeudi, 17 organisations non gouvernementales, dont la Ligue des droits de l'homme et 6 partis d'opposition, ont critiqué le contrôle exercé par le gouvernement sur les médias publics, le système judiciaire et sur la commission électorale.
Toujours en Tunisie, 4 femmes ont été condamnées à des peines de prison, accusées d'avoir acheté des parrainages pour le compte du rappeur et homme d'affaires Kaderim, candidat potentiel à la présidentielle du 6 octobre. Nouvelle journée de mobilisation au Nigeria. Hier, au moins 13 personnes sont mortes lors des manifestations contre les difficultés économiques, a affirmé Amnesty International. L'ONG accuse les forces de l'ordre d'avoir tué des manifestants pacifiques qui dénonçaient leur grande pauvreté. Claire Morin-Gibou.
Les protestataires ont manifesté à Abuja, à Lagos, la capitale économique, et dans plusieurs autres villes. Ces nouvelles manifestations contre la mauvaise gouvernance et la hausse du coût de la vie se déroulent sous haute sécurité. Au moins 5 États ont été placés sous couvre-feu, tandis que dans la capitale Abuja, les forces de l'ordre ont tiré des gaz lacrymogènes. Le Nigeria traverse une grave crise économique à la suite de réformes mises en place par le président Bola Ahmed Tinubu. L'inflation des denrées alimentaires dépasse les 40% et le prix de l'essence a triplé. Les manifestants demandent au président de revenir sur certaines réformes, comme la suspension de la subvention au carburant et de mettre fin à la souffrance et à la faim. Les organisateurs des manifestations, une coalition informelle de groupes de la société civile, ont promis de poursuivre leurs actions dans les prochains jours, malgré les avertissements des autorités.
Au Burkina Faso, nouvelle arrestation de Guy Hervé Kam, célèbre avocat et leader de la société civile burkinabé. Il avait déjà été arrêté à 2 reprises cette année et libéré sous contrôle judiciaire à la mi-juillet. Guy Hervé Kam a été convoqué par la justice militaire. Il a été entendu par le procureur militaire toujours sur cette affaire de complot. Il a ensuite été placé sous mandat de dépôt à la prison militaire, a déclaré ce vendredi un de ses proches. Après sa deuxième arrestation à la fin du mois de mai, Maître Kam avait été inculpé pour complot et association de malfaiteurs. La Russie a réaffirmé se tenir fermement aux côtés de Bamako après les lourdes pertes infligées fin juillet à l'armée malienne et au groupe Wagner par les séparatistes et djihadistes dans le nord du Mali, a assuré Abdoulaye Diop, le chef de la diplomatie malienne, après un entretien téléphonique avec son homologue russe, Sergei Lavrov. Ce dernier a exprimé la ferme intention de la Russie de continuer à apporter le soutien nécessaire à Bamako, notamment en ce qui concerne les questions socio-économiques, le renforcement de la capacité des combats des armées et la formation du personnel militaire. Et puis une candidate à l'élection de Miss Afrique du Sud au centre d'une vive polémique xénophobe sur les réseaux sociaux liés à ses origines nigérianes depuis l'annonce en juillet de sa qualification en finale de la compétition nationale de beauté. Chidima Adeshina, étudiante en droit de 23 ans née à Soweto et dont le père est nigérien, est la cible d'attaques xénophobes. Voilà pour le journal. À présent, le journal des Jeux Olympiques avec Eric Manirakiza.
Aujourd'hui, nous nous focalisons sur la République centrafricaine, représentée par 4 athlètes aux Jeux Olympiques de Paris 2024. 2 hommes et 2 femmes participent aux compétitions de natation, de judo et d'athlétisme. Gilbert Grezenke, président du Comité national olympique et sportif centrafricain, fait le bilan de leur performance.
Notre championne nationale, qui est vice-championne d'Afrique en judo, elle a déjà été en compétition, mais malheureusement, elle a été déjà éliminée. Et nous avons aussi un de nos nageurs qui a été hier en compétition, qui n'a pas pu participer aux phases finales, mais qui a battu son record national, qui a battu le record national de la lutte centrafricaine. C'est ce qui nous laisse donner un peu d'espoir, parce que nous disons que l'essentiel de se participer, mais il faut d'abord faire le combat avec soi-même. Et c'est là qu'il a réalisé, il a battu son record, il a battu le record national. Alors on ne peut que le féliciter pour ça. C'est ça aussi les Jeux Olympiques.
Gilbert décrit également l'ambiance au sein du village olympique.
Et les athlètes sont au village olympique. Donc les 10 000 athlètes sont au village olympique. C'est vraiment le monde de la camaraderie, de la fraternité, de l'amitié. Donc tout le monde se côtoie, il n'y a pas de discrimination, il n'y a pas de... Tout le monde est égal, voilà. Donc c'est ça l'ambiance des Jeux Olympiques. C'est cette grande manifestation quadriennale de la jeunesse du monde entier. C'est le festival de la jeunesse, c'est le festival de l'amitié, de l'unité, de l'amour, où on inculque les valeurs olympiques.
Mustapha Beraf, président des comités nationaux olympiques d'Afrique, partage également ce constat.
Les athlètes africains sont des athlètes. Ils ont une vie normale. Ils ont leurs amis, ils ont leurs relations. Nous avons de très, très bonnes relations avec tous les athlètes du monde. Dans le village olympique, il n'y a pas de discrimination. Il n'y a pas de couleur. Il y a un peu l'amour du sport. Et l'amour d'autrui qui est là, qui vivote. Les jeunes sont heureux, sont heureux d'être là et sont fiers d'avoir pu relever le défi et de participer aux Jeux Olympiques.
Mustapha Beraf souligne l'originalité des Jeux Olympiques de Paris.
Bon, les Jeux de Paris sont, à mon avis, assez exceptionnels et même, je dirais, même sensationnels. D'abord, en raison du caractère de préservation de la durabilité, et puis l'introduction de jeux urbains, des jeux olympiques qui deviennent de plus en plus urbains, et avec l'introduction de disciplines destinées exclusivement aux jeunes. Comme vous savez, il y a des disciplines qui ont été introduites, l'escalade, le breakdance, etc., et qui font sensation auprès de la jeunesse mondiale. Moi, je crois que la cérémonie d'ouverture également a été une œuvre magistrale, une grande œuvre de divers talents et une œuvre culturelle et sportive qui restera gravée dans l'histoire.
Près de 1000 athlètes africains participent aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Jusqu'à présent, l'Afrique a remporté un total de 6 médailles, dont une médaille d'or décrochée par l'Afrique du Sud.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. En République démocratique du Congo, le gouvernement a signalé environ 11 000 cas de variole du singe cette année, avec un bilan d'environ 460 décès. Les autorités indiquent que 80% des cas sont recensés dans les camps de déplacés. En réponse à cette nouvelle vague de la maladie, les autorités mobilisent les communautés locales pour renforcer la lutte contre l'épidémie. Eric Manirakiza, adjoint à Goma dans l'est de la RDC, Jean-Claude Nzé, spécialiste du soutien au programme de l'ONG Chorus International.
Ce virus, depuis quelques semaines, avant que le gouvernement provincial ne déclare l'état d'urgence, avait déjà affecté une dizaine de personnes. Et à la date, donc à la 29e semaine de l'année en cours, nous comptions jusqu'à 37 cas qui étaient identifiés, répertoriés dans les zones de santé de Goma, Karisimbi et de Nyiragongo. Donc actuellement, la province du Nord Kivu, elle est confrontée à cette crise, ajoutée à ça les autres crises humanitaires qui connaît la population, non seulement affectée par la crise humanitaire, c'est-à-dire les déplacés dans les camps du Nord Kivu et certains camps du Sud Kivu dans les Minova. Et les acteurs humanitaires, en collaboration avec le gouvernement congolais, sont à pied d'œuvre pour évidemment se rassurer qu'il y a une surveillance épidémiologique qui est accrue, qu'il y a des activités de sensibilisation et d'engagement communautaire sur l'observance de mesures barrières de cette épidémie, mais au même moment des activités évidemment de distribution des intrants PCI, donc pour lutter contre évidemment la propagation de ces virus dans les communautés.
Et quels sont les principaux symptômes observés chez les patients infectés et comment le personnel de santé se prépare-t-il pour traiter cette maladie?
Quand le gouvernement provincial, dont le gouvernement a lancé l'alerte du virus, c'était évidemment parce que les labos avaient déjà confirmé que le patient qui était admis dans les établissements sanitaires présentait une sorte d'éruption cutanée. Donc, il y avait des lésions muqueuses qui étaient accompagnées par de fièvre, de l'adénopathie, de céphalée, des douleurs musculaires, de la dorsalgie, de maux de gorge. Et on pouvait aussi voir de l'asthénie physique donc auprès du patient, dont la majorité était beaucoup plus des enfants. Et le personnel soignant, donc accompagné par le gouvernement congolais, mais aussi par les acteurs, les partenaires techniques et financiers du gouvernement congolais, nous travaillons ensemble, nous mettons les efforts ensemble pour nous assurer que le personnel soignant a l'information qu'il faut, a les outils qu'il faut et le matériel qu'il faut pour contenir évidemment la propagation de ces virus.
Est-ce que c'est une maladie mortelle? Comment on l'attrape?
Alors déjà, c'est une maladie infectieuse et mortelle, parce que jusqu'ici, donc rien que pour les 6 mois, les différents rapports qui ont été partagés, ça et là, parlent déjà d'environ 450 personnes qui ont perdu la vie parce qu'ils ont contracté cette maladie. Mais en termes de la transmission, elle est déjà interhumaine. Donc, que ce soit par le face-à-face, que ce soit par le partage de gouttelettes de la salive, mais aussi, pour le cas, par exemple, du Nord Kivu, la transmission s'est faite dans des endroits qui ont plus de personnes. Donc, dans des endroits comme le camp des déplacés, où nous avons plus de personnes, donc une seule personne qui présente déjà des symptômes de variole est susceptible d'infecter le plus de monde, le plus de personnes autour d'elle. Donc, ce qui fait qu'actuellement, par exemple, environ 80% des cas que nous avons sont des cas qui viennent de camps de déplacés parce qu'exactement, c'est qu'une seule personne qui a attrapé ces virus, facilement, il ou elle arrive à infecter d'autres personnes qui sont dans les camps.
Jean-Claude Nzé, spécialiste du soutien au programme de Chorus International, à Goma.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique 24h sur 24 à Goma en RDC sur 96.2 FM.
Depuis des années, la ville de Kinshasa, capitale de l'ancien Zaïre, était connue sous le nom de Kin la Belle, mais aujourd'hui, elle est surnommée Kin la Poubelle à cause des ordures qui s'accumulent dans les rivières, les rues et les moindres coins de la ville. Les détails avec Thierry Kaoré.
Xavier est l'un des éboueurs privés de la ville de Kinshasa. Il parcourt les rues de la ville, ramassant les déchets qu'il dépose, comme tout le monde, dans les décharges illégales qui envahissent la capitale tentaculaire de la République démocratique du Congo.
On est nombreux, les éboueurs privés sont nombreux. S'il n'y avait pas d'éboueurs privés, ce serait catastrophique. Les déchets envahiraient les parcelles.
La ville de 17 millions d'habitants produit quelques 7800 tonnes de déchets solides par jour, selon une étude publiée en 2023 dans le journal scientifique Helion. Cette décharge à ciel ouvert est l'une des nombreuses du genre éparpillées à travers les 24 communes de la capitale congolaise. Une situation devenue insupportable pour les riverains, comme Roger Odiekila, habitant de Kinshasa.
Primo, c'est dégueulasse. Et secondo, vraiment pas bon. Il n'y a pas le suivi. Il n'y a personne pour peut-être venir. Comment est-ce que je peux expliquer ? Contrôler quoi. Il n'y a personne.
Les autorités locales, appuyées par certaines institutions internationales, avaient lancé des projets pour s'attaquer au problème, mais la plupart des initiatives n'ont pas abouti. Il n'existe toujours pas de système centralisé de collecte et de traitement des déchets, explique Banchard Kipiomo, habitant de Kinshasa.
Il n'y a pas de poubelle publique. L'entreprise qui faisait la collecte des déchets était celle de l'Union européenne. Elle a fermé. Donc, on jette maintenant les déchets ici. Et c'est devenu comme notre poubelle publique.
De 2008 à 2015, l'Union européenne a injecté 1 million de dollars par mois pour l'évacuation des poubelles dans 9 communes de la capitale. Contactée par l'AFP, la délégation de l'Union européenne à Kinshasa n'a pas donné plus de détails sur ce programme. Les autorités locales non plus.
Trois Américains injustement détenus en Russie ont foulé à nouveau le sol américain. Jeudi, en fin de journée, le président Joe Biden et leurs proches les attendaient. Le reportage de Jessica Gerritz de la VOA. Le récit est de Claire Morin-Gibou.
Ce moment était attendu depuis longtemps. Les trois Américains libérés jeudi de prison en Russie sont arrivés à la base militaire Andrews, à proximité de Washington. Le président américain Joe Biden et la vice-présidente Kamala Harris étaient sur le tarmac pour les accueillir ainsi que leurs familles. Un accord historique impliquant plusieurs alliés a permis la libération de 16 prisonniers politiques détenus en Russie en échange de 8 personnes réclamées par le Kremlin. Les collègues du journal Evan Gershovitch ont laissé éclater leur joie plus tôt dans la journée à l'annonce du retour de leurs collègues sains et saufs. Ce correspondant à Moscou a passé près de 500 jours dans une prison russe. Jason Conti est avocat général à Dow Jones, la maison mère du Wall Street Journal.
Vous ne réalisez pas vraiment à quel point tout cela est émouvant jusqu'à sa libération, à la fois sa libération, mais aussi cette libération physique de le voir libre. Et les gens réalisent, oh, combien ils se sont sentis découragés et frustrés par ce qui se passait.
Même scène de joie à la rédaction de Alsou Kourmacheva à RFE-RL à Prague. Son mari, qui travaille pour la chaîne, a évoqué le calvaire enduré pendant des mois par sa famille.
Pour l'instant, nous sommes submergés par l'émotion. Nous essayons encore de comprendre ce qui nous est arrivé aujourd'hui. Être à la Maison Blanche, entendre la voix d'Alsou dans le bureau ovale à côté du président Biden. C'était quelque chose de très spécial, mais cette année a été incroyablement difficile pour nous.
Après leur retrouvaille sous le regard des médias, les familles devraient se rendre dans un centre au Texas pour bénéficier d'un soutien et d'une certaine intimité pendant qu'elles essayent de s'adapter à leur retour.
La Turquie a coordonné jeudi à Ankara un échange de 24 prisonniers entre la Russie et plusieurs pays occidentaux. S'il s'agit d'un soulagement pour les personnes libérées et leurs familles, certains observateurs s'interrogent sur les motivations et les conséquences de cet échange. Pour une analyse, Mohamedou Mfa a joint Jean de Gliniasti, ancien ambassadeur de France en Russie et spécialiste des questions russes à l'Institut des relations internationales et stratégiques en France.
le contexte électoral du côté américain et le souci de Poutine de faire libérer un certain nombre de personnes qui sont de vrais espions ont facilité les choses. Ce qui est intéressant, c'est que du côté américain, on a libéré quand même un journaliste, Karkovitch, un ancien soldat mais qui faisait du tourisme, Whelan, et puis le reste, on a fait libérer des hommes politiques, des opposants russes. Du côté russe, on a libéré soit des espions, soit des hackers, des gens qui avaient fait du trafic, du commerce, etc. Mais il y a eu conjonction de deux préoccupations de type différent. C'est vrai que la libération de Kershkovitch, le journaliste du Wall Street, pour Biden et pour les démocrates, c'est important. C'est pour ça que Trump a plutôt critiqué l'affaire, alors que Biden l'a qualifié de prouesse diplomatique.
Vous avez dit qu'il y a plusieurs espions russes qui ont été libérés. En réalité, que gagne la Russie dans cet échange de prisonniers, au-delà de cette libération que tout le monde peut constater?
Paradoxalement, elle gagne des deux côtés. C'est-à-dire qu'elle se débarrasse d'opposants, qui d'ailleurs n'étaient pas très chauds pour quitter la Russie, parce qu'ils préfèrent manifester leur opposition restant dans le pays. Ils savent qu'ils sont discrédités quand ils partent. Donc elle se débarrasse d'opposants et elle récupère, parce que pour Poutine c'est très important, de montrer qu'il ne laisse jamais tomber ses agents en difficulté. Donc il y a une image de Poutine qui en sort renforcée.
Alors, est-ce que cet échange peut avoir un impact sur le conflit en Ukraine, découlant par exemple d'une décrispation entre la Russie et les pays qui soutiennent Kiev?
Je ne crois pas. Je crois qu'il y a des considérations conjoncturelles. Le souci de libérer des citoyens américains d'un côté, et puis il y a du côté russe le souci de libérer des gens qui ont servi entre guillemets à la patrie russe. Donc ça n'implique pas grand-chose pour la suite du conflit. Hein.
Alors, il y a plusieurs organisations, dont Amnesty, qui critiquent cet échange et qui pensent que désormais, ça pourrait encourager le régime russe à prendre davantage d'otages qui serviraient de monnaie d'échange. Quel est votre avis?
C'est vrai que c'est un risque, bien entendu. Mais vous savez, quand il y a des otages et quand il y a des prisonniers, on ne réfléchit pas beaucoup. On essaie surtout de les libérer. Vous voyez, toutes les questions d'otages au Sahel ou ailleurs, la priorité du gouvernement, c'est de libérer leurs citoyens injustement arrêtés. Les échanges d'otages, de prisonniers, ça a toujours existé. Là, le contexte est un peu différent parce qu'on a un vrai package, hein, si je puis dire. Il y a un mélange, comme je disais, de hackers, d'espions, d'hommes politiques, d'opposition. Enfin, il y a tout ce truc-là.
Jean de Glignasti, ancien ambassadeur de France en Russie et spécialiste des questions russes à l'Institut des Relations internationales et stratégiques en France.
Rejoignez-nous chaque vendredi à 19h30 TU dans l'Amérique et vous. L'Amérique et vous, explorez les liens sociopolitiques et culturels entre l'Amérique et l'Afrique. L'Amérique et vous, l'émission qui réunit les deux continents dans un échange vibrant d'idées et de perspectives. Participez à la conversation sur les moyens de renforcer les liens entre l'Afrique et l'Amérique. Rejoignez-nous dans l'Amérique et vous, votre dose hebdomadaire d'échanges culturels et des discussions informatives sur l'Afrique et les États-Unis. L'Amérique et vous, c'est chaque vendredi sur VOA.
Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Mignon à ce micro, à la mise en onde, Michel Joseph. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, la plateforme X et Instagram pour un suivi de l'actualité 24h sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.